Un jour, un livre, un auteur, les semaines s'enchaînent tranquillement. Et quel plaisir, bien sûr, d'être avec vous, Philippe Nonni et Diego Rabal.
Eh bien, un grand plaisir partagé, Philippe et Philippe.
Eh bien oui, bonjour Philippe Subercaz et bonjour Diego Rabal.
Bonjour les deux Philippe. Et puis, aujourd'hui, nous avons une invitée au téléphone.
Je vous laisse bien sûr le soin de nous la présenter.
Alors, cette invitée au téléphone, c'est Nathalie Glevarec que je reçois pour « Derrière la vengeance ». Un roman policier. Donc bonjour Nathalie, c'est votre premier roman. Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Diego, bonjour les deux Philippe du coup.
Voilà, on est sur Radio Présence et on va donc présenter cette dernière vengeance. Alors comme d'habitude, je vais faire une petite lecture de concernant votre roman. En 1947, Héloïse et son fils Hubert quittent précipitamment leur propriété à Saint-Vincent de Tyros, dans les Landes, pour se réfugier à Bordeaux. Tous deux fuient le harcèlement d'un notable local, Maurice Rivaud. 70 ans plus tard, en 2017, Georges Rifaud, le fils de Maurice, est victime d'un accident de chasse. L'enquête de routine de la major Alexa et de son collègue Alain va vite changer d'angle à la suite d'une remarque de Denise Grabot, l'ancienne institutrice du village, sorte de Miss Marple locale. 4 accidents de chasse en 5 ans, c'est peut-être beaucoup pour du hasard, non? C'est dans des allers-retours entre 1947 et 2017 que Nathalie Glevarec construit patiemment la toile de fond de son roman. De Saint-Vincent de Tyros à Bordeaux, la vie de ses personnages s'éclaire et le lecteur peut échafauder ses hypothèses à l'instar des gendarmes. L'auteur tisse avec brio et d'une plume sûre les fils de ses destinées chaotiques. Elle reconstitue avec justesse le climat de l'immédiate après-guerre et brosse finement les caractères des protagonistes de l'histoire. Pour son premier roman, Nathalie Glevarec nous convainc, car son coup d'essai est un coup de maître. Derrière la vengeance, Nathalie Glevarec, édition France Libris. Voilà ma façon de parler et de lire votre livre. Alors, cette histoire de vengeance, comment ça vous est venu?
Alors, cette histoire de vengeance, oula. Ce roman a été écrit à la base pour mon papa, rien que pour lui. Parce qu'en 2019, je pense, Diego, que tu te souviens de Pierre Léoutre qui faisait des salons du Polar.
Oui.
Dans le Gers, avec l'association Le 122. En 2019, il m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour son concours. Il n'en avait pas assez et tout ça. Bon, j'ai hésité. Au départ, j'ai dit non, moi je joue avec les images, je joue pas avec des mots. Et puis bon, du coup, je me suis pris au jeu et j'ai écrit une nouvelle. En décembre 2019, j'offre le recueil de nouvelles à mon papa, puisque ma nouvelle avait été prise par le comité de lecture. Mmh. Et quand on a fêté ses 90 ans, début mars 2020, mon papa, au dessert, me dit « mais c'est très bien, tout ça ». Je dis « bon, ben oui, c'est mon papa, donc il trouve que c'est bien ». Mais il m'a dit « mais tu t'en as pas mis assez ». Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, oui, il y a toute cette histoire de vengeance qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Tu aurais pu expliquer des tas de choses. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses abominables. Et là, je lui dis, mais c'est une nouvelle, c'est pas un roman. Et puis, bon, je vais essayer de faire bref. En rentrant, je me suis dit, bon, mais je vais écrire la suite pour mon papa. Il sera content, tout ça. Parce que lui, quand il était petit... il avait 9 ans quand la guerre a commencé, donc il a vécu, lui, des choses...
Oui, il était déjà en âge de comprendre ce qui se passait et de vraiment être touché émotionnellement par ce qui se passait, oui.
Tout à fait, et puis cette période, bon, mais l'a bien marqué, et il nous en parlait d'ailleurs assez régulièrement... Et du coup, bon, alors j'ai pas écrit le livre de suite, parce que, ben, comme je suis graphiste, j'ai eu du travail, puisque pendant le confinement, les auteurs écrivaient. Mmh. Donc je n'ai commencé l'écriture qu'en 2022. Et donc voilà, 2022, 2023, et puis bon, je l'avais incliné en format A4 pour mon papa, il l'a lu, il était tout content. Et puis je l'ai fait lire à des amis auteurs qui avaient su que j'avais fait la nouvelle, et notamment Serge Tachon qui lui avait lu la nouvelle également, qui m'a dit « mais ne laisse pas cette nouvelle, ce roman dans ton ordinateur, fais-en quelque chose ». Donc voilà, alors je l'ai envoyé dans une maison d'édition qui l'avait trouvé bien, mais il fallait que je fasse des modifications qui, au fin de compte, ne me plaisaient pas trop. Et du coup, comme deux autres auteurs, il y avait Alain Roumaniac et Max Bartin qui l'avaient lu, puisque eux m'ont servi pour mes m'ont servi de modèle
Pour les gendarmes, oui.
Voilà, tout à fait. Et là, eux aussi m'ont dit, ils l'ont lu et m'ont dit non, tu. Du coup, bon, mais j'ai pris une correctrice. Et puis voilà, je suis partie à l'aventure avec l'édition de ce livre.
D'accord. Et c'est quand même une très belle histoire, cette histoire d'Héloïse. Vous vous basez sur des faits réels quand vous en avez parlé avec votre papa. Il vous a raconté des choses qui ont étoffé votre roman ou c'est simplement de l'imagination?
Alors, si on part sur le côté spoliation, il y a eu plein de choses que j'ai vues, que j'ai lues. Donc, du coup, je pense que c'est tout un ensemble, c'est-à-dire qui m'a donné cette idée-là pour Héloïse. Ensuite, le fait que mon père m'ait raconté des choses m'a servi pour... Par exemple, quand le résistant basque, avec son camion, fait des allers-retours dans les Landes, ça, cette histoire de camion où on cache dedans des choses, ça, c'est arrivé parce que mon père m'a raconté des choses par rapport à son beau-frère, puisque mon père était d'une fratrie de 6 enfants, il était le petit dernier, il avait 5 sœurs. Il avait déjà un beau-frère quand il avait 9 ans et qui, lui, était transporteur. Voilà.
D'accord, vous vous êtes basé sur des faits réels. Vous avez travaillé aussi sur des archives pour cette période, sur les passages qu'il y avait, sur le fonctionnement des maquis?
Tout à fait, parce que la nouvelle était dans Gers. C'était une obligation pour le concours de nouvelles. Et après, quand j'ai décidé d'écrire pour mon papa, ce qui s'est passé, c'est que je voulais savoir ce qui s'était passé à la résistance dans les Landes. Donc, du coup, je l'ai rapatrié dans mon coin. C'était plus facile pour moi de décrire, par exemple, Tyros, de tous ces lieux, puisque je les connaissais.
Oui, c'est des lieux où vous connaissez, parce que vous habitez dans le coin aussi.
Voilà, puis je suis remontée à quelques années où moi j'ai connu par exemple des boutiques qui n'existent plus, des choses comme ça, donc c'était bien de le mettre. Et j'ai passé deux journées aux archives départementales de Mont-de-Marsan pour savoir ce qui s'était passé donc pendant la guerre. Et c'est là que j'ai appris que Tyros, c'est toute la bande de littoral, était une zone interdite. À cause de la construction des blocos.
Oui, du mur de l'Atlantique, ouais.
Donc, voilà. Et puis donc, j'ai donc mélangé un petit peu des faits réels qui m'ont servi d'appui, en fin de compte, pour mon histoire tout à fait inventée.
Ah oui. Mais là, ces personnages sont intéressants parce que il y a cet enfant, Hubert, qui va être extrêmement perturbé par le fait que sa maman décide qu'ils partent et qu'ils quittent leur domaine, puisqu'ils partent de leur domaine. Il va être très perturbé par cela. Et malgré tout, il va se construire une vie avec un père de substitution parce qu'il ne connaît pas son père.
Non, il ne connaît pas son père. Alors, je ne dirais pas pourquoi, parce que...
On ne va pas divulgâcher.
Pardon. Oui, voilà. Mais oui, il va pas le connaître. Et c'est vrai que en plus, sa maman, qui est quand même courageuse et forte, elle est quand même elle-même dans des situations très critiques, quoi. Elle doit tout reconstruire dans un endroit qu'elle connaît pas vraiment. Bon, heureusement, elle est un petit peu épaulée. Mais et cet enfant a un problème avec son nom de famille. Enfin, son nom de famille, dans les conditions où ils vont vivre à Bordeaux, va lui créer des problèmes quand même.
Et oui, donc, ça va être plus un poids pour lui que un élément positif.
Oui, oui, voilà. Et donc, du coup, et puis il est fragilisé parce que, bon, c'est vrai, il avait 5 ans. Alors, des fois, à 5 ans, on ne se rappelle pas de tout. Mais lui, s'en rappelle parce qu'il se rappelle de son départ, de tout ce qu'on lui avait promis aussi qu'il n'aurait pas. Et un enfant, quand on lui promet quelque chose, ben, il vaut mieux le tenir parce que sinon, il est un peu rancunier, quoi.
Ben oui, c'est un petit peu logique. Et puis, il y a cette belle histoire là de Hubert. Et puis, il y a la belle histoire aussi de Denise Grabeau, qui est une sorte de Miss Marple qui va en fait déclencher vis-à-vis de d'Alexa, la gendarme, elle va déclencher une enquête, alors que a priori tout semblait rouler sans problème. Elle va déclencher une enquête qui va mener jusqu'à découvrir que ces accidents de chasse n'en sont pas. Donc là, on divulgue le gâche rien, parce que c'est un peu évident, mais c'est quand même cette Miss Marple, elle est un personnage que vous avez rencontré, que vous avez connu, ce type de personne ?
Alors, j'adore regarder Miss Marple, Poirot, tout ça. Donc, je pense que bon, il y a des choses comme ça qui insidieusement me sont tombées dessus quand j'écrivais. La chose sur Miss Marple, sur Denise Grabeau, c'est que quand j'ai écrit la nouvelle, je savais qui étaient les victimes, et je savais pas comment les gendarmes, eux, dans l'enquête, allaient le savoir. Bon. Et donc, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me mette à écrire, Pierre attend la nouvelle, tout ça. Donc, j'ai commencé à écrire. Alors, ce qui est dans mon roman, parce que j'ai fait un prologue dans le roman, et là, il y a un premier chapitre. Et donc, ma nouvelle commençait directement au premier chapitre, c'est-à-dire la scène au cimetière, quand on fait les obsèques donc du président des chasseurs. Et donc, je commence à décrire un petit peu l'ambiance, tout ça. Et puis, je crois que c'est la troisième phrase. Je crie Denise Grabeau, institutrice retraitée. Nana. Puis je finis ma phrase et je me dis, mais c'est qui elle ? Alors, j'avais tout noté, mes personnages, moi, dans un cahier, tout ça. Je regarde, je dis, mais c'est qui ? Alors, je m'arrête et là, je me dis, ah, mais... J'ai dit, bon, mais ça y est, c'est mon fil conducteur. Elle va savoir des choses et elle va les distiller. Et c'est comme ça que Denise Grabeau est arrivée. Et alors, une petite chose, c'est qu'ensuite, quand je suis passée au roman, du coup, bon, je devais étoffer un petit peu l'enquête, mais surtout tout créer la partie historique et pouvoir bien l'incorporer dans l'enquête. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va faire le lien ? Alors, Denise faisait quand même un peu le lien avec le passé, évidemment. Mais il fallait un rebondissement dans cette histoire du passé, parce que Denise ne pouvait pas tout savoir non plus. Et là, là par contre, la chance du débutant avec Denise, je me suis dit, je ne vais pas l'avoir pour le roman, il va falloir que je réfléchisse. Et puis, eh ben, en réfléchissant, je me suis dit, bah, un curé. Donc, on a un curé basque à Tyros dans ma fiction. Voilà.
Un personnage important d'ailleurs, parce que il a peu de scènes dans le roman, il en a 5 ou 6 seulement, mais disons que c'est quand même lui qui est le pivot des révélations, en fait.
Voilà, tout à fait. Et mine de rien, enfin, je pourrais dire presque mine de rien, oui, parce que il avait eu la chance d'avoir un grand-père qu'il avait eu, quoi. Enfin, tout le monde a eu de la chance, d'ailleurs, qu'il avait ce grand-père.
Oui, 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 non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que si il n'avait pas eu ce grand-père, s'il ne lui avait pas raconté ses histoires, s'il n'avait pas non plus le flair d'aller chercher dans les archives paroissiales, il est clair que les gendarmes n'auraient absolument pas pu résoudre cette enquête.
Tout à fait, tout à fait. Des éléments extérieurs qui font que ça match.
Alors, on va peut-être laisser là le roman, en disant que maintenant, c'est aux auditrices et aux auditeurs d'aller se plonger dedans et de revivre ce petit moment de 3 ans quand même, puisque vous racontez 3 ans de la Deuxième Guerre mondiale dans la région de Tyros. On va laisser ça pour les lectrices et les lecteurs qui nous écoutent et qui vont aller lire votre roman. Mais on va parler d'une autre facette de votre activité, c'est-à-dire que, en fait, là, vous avez démarré de l'écriture, mais vous êtes graphiste au départ, hein ?
Oui, tout à fait.
Et donc, vous réalisez des couvertures. Donc, vous avez réalisé la couverture de votre roman. Ça, c'est normal. Hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais vous avez... la semaine dernière, nous avons reçu un auteur, Chris Raveri, que vous connaissez bien, et pour lequel vous avez réalisé une couverture. Vous réalisez beaucoup de couvertures ou c'est un élément secondaire dans votre travail de graphiste ?
Alors, d'abord, le fait de faire des illustrations, des couvertures, et puis même des bandes d'annonces vidéo pour la sortie de romans, je suis installée en tant que graphiste littéraire. Alors, il est évident que derrière, j'ai une formation de graphiste classique, affiches, flyers, logos, tout ça. Je me suis spécialisée dans la littérature, tout simplement parce que il y a quelques années, je cherchais du travail. En même temps, depuis 2015, je vais dans les salons du livre, je rencontre des auteurs, je discute avec eux, je les prends en photo.
Dont vous faites de très belles photos.
Merci. Et pour faire des commentaires de mes lectures, j'ai créé un blog en 2015 qui s'appelle Images de roman. Et là, je faisais un petit peu l'illustration de ce que m'avait inspiré la lecture, hein, avec les mots. C'est-à-dire je prenais les mots, ça me donnait un sentiment, ça me donnait des impressions. Et j'essayais de les reproduire en images, notamment avec... plutôt du photomontage, mais après, bon, le client, s'il veut autre chose, il a autre chose. Et donc, voilà. Et après, je faisais mes commentaires. Et là, beaucoup de personnes ont pensé que c'était mon métier. Et ça ne l'était pas, puisque moi, j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là. Et du coup, on a commencé à me demander quelques illustrations, après des couvertures complètes. Et là, j'ai dit, je m'installe. Donc, je me suis installée, et en faisant vraiment que de la littérature. Donc voilà, je fais aussi de la mise en page intérieure, des romans,
du maquettage, oui.
Voilà, je fais les intérieurs. Là, je viens d'en finir un, mais qui n'est pas encore sorti. C'était sur un livre qui est, alors là, un livre éducatif, je dirais, sur l'écosystème des mares. Enfin voilà, ces choses-là, donc très très spécifiques, parce que la mise en page de romans est relativement simple à faire. Et je fais également des book trailers ou des teasers, selon comment on les appelle. Et là, les auteurs me donnent quelques mots-clés de leur roman. Alors, c'est vrai que je les lis par moments, surtout les auteurs que j'ai depuis le début de mon aventure de graphiste littéraire. Et ils me donnent des mots-clés. Et comme moi, j'ai lu également le roman, j'essaie de trouver des images, de créer des choses en vidéo. Donc des fois je fais du montage, je fais de l'animation 2D aussi avec un logiciel. Et quand je réalise des illustrations de couverture, en général, ça c'est le trois quarts du temps, je lis le manuscrit et je fais comme quand je faisais pour mon blog Images de roman. Je crée donc une illustration que je soumets à l'auteur. Soit ça passe tout ça de suite, soit l'auteur des fois me dit « Ah, et si on faisait un peu ça ?» Et là, on va peut-être par moment le retravailler aussi.
D'accord. Donc là, vous êtes quand même parmi les graphistes que je connais, vous êtes un des rares graphistes qui travaille après lecture du roman. La plupart du temps, les graphistes avec lesquels moi j'ai eu l'occasion de travailler partaient sur un pitch que réalise l'auteur ou que réalise l'éditeur pour construire l'image et l'illustration. Donc vous lisez le roman, ça doit vous prendre quand même temps systématiquement.
Oui, mais comme je lis le soir, que je lise un livre que j'ai reçu en service presse ou que j'ai acheté ou que je lise le manuscrit, pour moi, ça ne change pas grand-chose dans la lecture. Après, ce sont les auteurs que j'ai et qui m'ont contacté parce qu'ils trouvaient que ce que je faisais dans mon blog leur plaisait. Mmh. Et comme ils savaient comment je fonctionnais dans le blog, ils voulaient que je travaille comme ça pour eux. Voilà. Mais ça m'est arrivé d'avoir d'ailleurs que la quatrième de couverture, sans savoir ce qu'il y a dedans, sans connaître les sensations. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé un jour de travailler pour une petite maison d'édition. J'avais que la quatrième de couverture et le titre. J'ai fait des illustrations. Voilà, c'est passé. Ça a été... validé et tout, et quand moi par la suite, il y en a un livre comme ça, quand je l'ai lu, j'avais totalement une vision différente, et je m'étais amusée, moi, dans mon blog à faire l'image que j'avais eue.
À refaire la première.
Et je me souviens de la réaction, quand je l'ai mis sur Facebook, de l'éditeur parce que l'auteur disait « Ah ouais, elle est magnifique celle-là », alors que je lui avais fait l'origine, enfin celle qu'il y avait sur son livre. Et à ce moment-là, l'éditeur qui me met un petit poste en disant « Oui, dommage ». J'ai dit « Bon, alors j'ai dit là, mais oui, mais l'éditeur savait qu'il aimait, il trouvait que c'était waouh ce que je faisais dans mon blog, sauf qu'il m'a demandé de travailler comme à n'importe quel autre graphiste. Mmh, mmh. » Et depuis, quand je fais comme ça des couvertures pour des auteurs qui sont dans les maisons d'édition, ça m'arrive de faire au moins l'illustration. Quand je commente dans mon blog, je ne fais plus ça. Je ne le fais plus pour pas décevoir après qui que ce soit.
Oui, mais je veux dire, en règle générale, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les maisons d'édition avec lesquelles vous travaillez, mais... je veux dire, la maison d'édition vous passe une commande d'une couverture, mais après, on retravaille la couverture. Je veux dire, vous avez quelqu'un qui est chargé de l'édition, on appelle ça un éditeur, mais c'est pas lui qui engage, hein, c'est la personne qui est chargée de sortir le roman, de le faire vivre, de le faire naître. Généralement, il y a un aller-retour avec le ou la graphiste pour affiner, pour modifier un peu. Donc c'est, je veux dire, si l'éditeur n'était pas content et trouvait que vous aviez réalisé quelque chose d'autre, peut-être qu'il n'avait pas pris le temps ni l'énergie nécessaire à vous faire retravailler jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit beaucoup plus accrocheur et beaucoup plus proche du contenu du livre, non ?
Ah mais alors là, dans ce qui s'était passé là, c'était que ce que j'avais fait moi plaisait. Par rapport à ce qu'on m'avait dit, les directives, tout ça,
d'accord.
Ça collait.
Oui, non, mais ça collait. Mais après, quand ils ont vu ce que vous aviez fait spontanément, ils trouvaient que ça collait mieux.
Ben oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, je ne le refais plus, ça.
Oui, ben vous avez raison, parce que... mais c'est vrai que c'est important. Bon, moi, je travaille avec une maison d'édition. Ben, on est souvent, on donne le pitch au graphiste et on retravaille ce qu'il nous a proposé avec l'auteur qui, en fonction de ce que fait le graphiste, va dire là, c'est pas tout à fait l'atmosphère de mon roman, là, etc. Parce que c'est vrai que le graphiste ne lit pas forcément. Vous êtes une des rares graphistes à lire.
Moi, je fais ça dans l'artisanat, quoi. Je fais pas ça dans l'industrie. Donc,
Vous réalisez combien de couvertures ? Vous réalisez combien de couvertures chaque année, puisque vous dites que vous travaillez dans l'artisanat ?
Oh, moi, si je dois en faire une quinzaine.
D'accord. Ah oui, donc une par mois, ouais. Ça prend combien de temps de définir une couverture ?
Alors là, ça dépend. Ça dépend parce que moi, quand j'ai une idée, il va falloir que je trouve les images qui vont, enfin les photos que je vais pouvoir prendre, découper les morceaux que j'ai besoin pour pouvoir après les rassembler dans un montage, tout ça. Ça peut prendre des fois une heure et demie à chercher des photos ou à les faire du coup, parce que des fois ça m'arrive de devoir les faire. Hein. Et puis il y a des fois, c'est de suite. De suite, je les trouve. Puis bon, maintenant, j'ai une bibliothèque d'images qui est assez énorme. Donc, heureusement, pour l'instant, j'arrive à me souvenir à peu près de ce que j'ai avant d'aller chercher sur le net. Et après, c'est pareil. Si je dois, par exemple, faire une illustration avec trois images, ça va aller plus vite que si je dois mettre cinq ou six éléments différents. Quoi. C'est aléatoire, ça dépend.
Philippe, vous aviez encore une question.
Moi, écoutez, j'ai un rêve. Est-ce que vous pourriez essayer de refaire les couvertures d'un certain auteur qui s'appelle Diego Arrabal pour voir un peu ce que ça donnerait et voir l'écart.
Et j'en ai fait une. Dans mon, alors pas qui n'existe pas au ré, enfin qui n'a pas existé sur un livre.
Oui, qui n'est pas sorti
si
en livre.
Si vous vous souvenez, Diego, moi j'ai lu, je me rappelle plus triste. Il y avait vous aviez mis un singe sur.
Oui, le principe des trois singes.
Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'ai fait moi dans mon blog Images de romans.
Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse entre vous là pour en discuter
honnêtement, non, je me souviens pas, mais je pense que vous aviez fait quelque chose de d'intéressant. Ouais.
Mon fils m'avait prêté son visage que l'on ne voit pas parce que et ses mains, et il avait fait le principe des trois singes avec même posé sur les yeux, sur la bouche et sur les oreilles.
Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais. Mais voilà, on ne reconnaissait pas. Moi, de toute façon, je ne savais pas que c'était votre fils, mais on ne reconnaissait pas la personne, justement, par la présence des mains, oui, effectivement.
Voilà, donc j'avais essayé de composer sur une main le principe des trois singes, je crois. Donc, on s'était bien amusé avec mon fils. Là. J'avais pris en photo sur devant ma façade blanche. J'avais fait des photos. Puis après, je m'étais bien amusé quand j'ai tout découpé pour faire passer. Ah ben non, il faut que je fasse passer les mains des yeux sur les oreilles. Mais après, sur les mains des oreilles. Enfin, bon, ça avait été un gros puzzle. C'était assez marrant.
Oui, oui, je me souviens. Mais écoutez, Nathalie, le temps passe, on va devoir vous abandonner à l'écriture, à la réalisation
de couverture,
etc. Donc, je rappelle que nous recevions Nathalie Glevarec pour Derrière la vengeance aux éditions France Libris. À bientôt et au plaisir de vous revoir, chères auditrices et chers auditeurs. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.